Prions. Seigneur, merci pour ce matin, merci pour le soleil qui brille, merci pour ce lieu, Seigneur. Merci pour le fait que tu es parfait, que tu es grand, que tu es bon. Oh, nous avons des difficultés ici-bas, Seigneur, parfois nous avons de bonnes choses, nous avons une vie qui est rythmée par tellement de choses différentes, Seigneur. Mais nous voulons venir à toi, nous voulons venir devant toi, Seigneur, et t'écouter ce matin. Nous avons besoin de toi, Seigneur, parle-nous ce matin. Merci. Amen. Alors, Zacharie 8. Si vous voulez bien vous y tourner avec moi, nous allons lire la suite du passage de la semaine dernière. Les chapitres 7 et 8 forment un tout. Et donc, on va continuer l'étude sur cette partie du livre de Zacharie. Mais je vais commencer en lisant à partir du verset 1 du chapitre 8 de Zacharie. La parole de l'Éternel, le maître de l'univers, fut révélée. Voici ce que dit l'Éternel, le maître de l'univers. J'éprouve une grande jalousie envers Sion. J'éprouve pour elle une grande colère. Voici ce que dit l'Éternel, je retourne à Sion et je veux habiter au milieu de Jérusalem. Jérusalem sera appelée ville de la vérité et la montagne de l'Éternel, le maître de l'univers, montagne sainte. Voici ce que dit l'Éternel, le maître de l'univers. Des vieillards et des femmes âgées s'assieront encore dans les rues de Jérusalem, chacun le bâton à la main, à cause de leur grand âge. Les places de la ville seront remplies de jeunes garçons et filles jouant dehors. Voici ce que dit l'Éternel, le maître de l'univers. Si cela paraît étonnant aux yeux du reste de ce peuple durant ces jours-là, sera-ce aussi étonnant à mes yeux, déclare l'Éternel, le maître de l'univers. Voici ce que dit l'Éternel, le maître de l'univers. Je sauve mon peuple du pays du levant et du pays du soleil couchant. Je les ramènerai et ils habiteront au milieu de Jérusalem. Ils seront mon peuple et je serai leur Dieu dans la vérité et la justice. Voici ce que dit l'Éternel, le maître de l'univers. Fortifiez vos mains, vous qui entendez aujourd'hui ces paroles de la bouche des prophètes qui ont surgi au moment où l'on a posé les fondations de la maison de l'Éternel, le maître de l'univers, où l'on a commencé à reconstruire le temple. En effet, avant, le travail de l'homme ne recevait pas son salaire et le travail des bêtes ne rapportait rien. Il n'y avait pas de paix pour ceux qui entraient et sortaient à cause de l'ennemi et je dressais tous les hommes les uns contre les autres. Mais maintenant, je ne suis pas pour le reste de ce peuple comme j'ai été par le passé, déclare l'Éternel, le maître de l'univers. Car je sèmerai la paix. La vigne donnera son fruit. La terre s'est produite et le ciel s'arrosait. J'accorderai tous ces biens en héritage au reste de ce peuple. De même que vous avez été une malédiction parmi les nations, communauté de Juda et communauté d'Israël, de même je vous sauverai et vous serez une bénédiction. N'ayez pas peur et fortifiez vos mains. En effet, voici ce que dit l'Éternel, le maître de l'univers. Lorsque vos ancêtres m'ont irrité, j'ai décidé de vous faire du mal, dit l'Éternel, le maître de l'univers. Et je ne suis pas revenu sur ma décision. De même, je me ravise et je décide maintenant de faire du bien à Jérusalem et à la communauté de Juda. N'ayez pas peur. Voici ce que vous devez faire. Que chacun dise la vérité à son prochain. Rendez la justice aux portes de vos villes, conformément à la vérité et en vue de la paix. Que personne ne projette dans son cœur le mal contre son prochain et n'aimez pas le faux serment, car tout cela je le déteste, déclare l'Éternel. La parole de l'Éternel, le maître de l'univers, m'a été adressée. Voici ce que dit l'Éternel, le maître de l'univers. Les jeunes du 4e, du 5e, du 7e et du 10e mois se changeront pour la communauté de Juda en jours d'allégresse et de joie, en fait de réjouissance, mais aimez la vérité et la paix. Voici ce que dit l'Éternel, le maître de l'univers. Des peuples et des habitants de villes nombreuses viendront encore. Les habitants d'une ville iront dans une autre en disant « Allons implorer l'Éternel et rechercher l'Éternel, le maître de l'univers. J'irai moi aussi. Beaucoup de peuples, des nations puissantes, viendront rechercher l'Éternel, le Maître de l'univers, à Jérusalem et implorer l'Éternel. Voici ce que dit l'Éternel, le Maître de l'univers. Ces jours-là, 10 hommes de toutes les langues des nations attraperont un juif par le pan de son habit et diront « Nous irons avec vous, car nous avons appris que Dieu est avec vous. » Amen. On continue notre étude. Zacharie qui continue d'avoir ses paroles de la part de Dieu pour les Israélites qui étaient revenus dans le pays d'Israël après l'exil à Babylone, après la destruction du pays. Et ils avaient commencé à rebâtir le temple, la ville de Jérusalem. La ville de Jérusalem viendra en deuxième priorité. Et ils ont eu des périodes où ils ont eu un peu de mal à rester motivés parce qu'il y a eu des difficultés, des peuples qui s'y opposaient. C'était dur, ils étaient peu nombreux, il y avait beaucoup de choses à faire. Ce qu'ils étaient capables de faire, les moyens qu'ils avaient étaient limités. Et ils se sont découragés. Et donc les paroles de Zacharie, les premières paroles, il y a eu des paroles encourageantes, des choses pour les motiver, pour leur dire non, continuez, avec des promesses de la part de Dieu de les aider, d'être avec eux, de restaurer. Et ils arrivent à un point où ils commencent à voir un peu le fait que le temple va être reconstruit. Et comme parfois, comme souvent, comme beaucoup d'humains, comme nous tous, on va dire, ils commencent à se poser des questions un peu théoriques. Et dans ce passage, dans les chapitres 7 et 8, il y a une question qui est arrivée avec l'idée de dire on a instauré des jeûnes ou des jours un peu de deuil national. Dans le chapitre 8, il est question des jeûnes au verset 19, les jeûnes du 4e, du 5e, du 7e et du 10e mois. Et Pierre en a parlé la semaine dernière, il y avait différentes raisons et c'était lié à ce que Babylone avait fait à Israël. Et l'un des jeûnes, c'était de dire on va jeûner et avoir une journée de deuil pour se rappeler le jour où Babylone a détruit le temple. Et donc la question qui se pose à ce moment maintenant, c'est qu'ils disent, mais on a reconstruit le temple maintenant, donc est-ce que c'est la peine d'encore faire une journée de deuil national s'il y a un temple? Donc il y a cette question qui arrive, et Pierre en a parlé déjà la semaine dernière, Dieu leur dit, mais c'est pas moi qui vous ai demandé de faire ces jeûnes. Moi, si vous avez envie de jeûner, allez-y, mais c'était pas mon programme. Et donc, il continue ici, et on a un message, en le lisant à haute voix pour vous. Je sais pas si vous avez noté la répétition, mais il y a l'Éternel, le Maître de l'univers, qui revient sans cesse. Il y a des phrases où c'est au début de la phrase et à la fin de la phrase pour conclure. Et c'est vraiment un message avec l'autorité de Dieu qui vient. C'est pas Zacharie, c'est pas son propre petit truc ici, c'est l'idée que c'est l'Éternel, le Maître de l'univers qui veut dire ces choses, qui veut les annoncer au peuple. C'est intéressant de réfléchir à ce terme, l'Éternel, le Maître de l'univers. Parce que des fois on le lit en passant, mais c'est quelque chose d'assez incroyable. De par l'histoire du monde, on a sans doute galvaudé ça. Il y a des empereurs qui se déclaraient maîtres de l'univers. J'en sais rien les titres, etc. Les Romains, les Grecs, Napoléon. qui se croyaient des maîtres absolus, mais ici on a affaire à Dieu, le Maître de l'univers, avec une puissance dont on n'arrive même pas à commencer à imaginer la moindre petit bout de la puissance que ça représente. Quand on lit des revues scientifiques sur la grandeur, l'univers, est-ce que vous avez vu rien que le temps qu'il faut pour aller à la planète à côté? Sans parler de toutes les étoiles, et Dieu, c'est lui qui est maître de tout ça, c'est lui qui dirige tout ça, c'est lui qui est sur tout ça, c'est lui le maître de l'univers. Et il commence ici dans notre texte en disant qu'il a une grande jalousie envers Sion, qu'il éprouve une grande colère. Alors Sion, qu'est-ce que c'est? Est-ce que vous êtes au clair? C'est un mot, on entend peut-être de temps en temps le mot sioniste quand on étudie l'histoire. On lit, on entend Sion dans l'Ancien Testament, dans les choses, et des fois on n'a pas une bonne compréhension. Sion, au niveau étymologique, alors il y a des discussions, mais c'était l'idée d'un lieu ensoleillé ou peut-être d'un lieu asséché. Et il y a une similitude aussi avec un mot qui veut dire monument ou borne. Mais c'est simplement la montagne sur laquelle le début de la ville de Jérusalem a été bâti. Si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir dans 2 Samuel 5-7 ou dans 1 Chronique 11-5. Il en est question parce qu'il y avait un peuple qui habitait là, les Jébusiens, et David va venir conquérir, va les expulser et va construire ce qu'on va appeler la ville de David, avec son palais et sa forteresse, et plus tard on va y construire le temple. Et donc, Sion... C'est pour les amoureux des langues. Je me suis fait une page Wikipédia sur les tournures de la langue française, sur les figures de style, et on appelle ça une métonymie. C'est-à-dire que Sion est utilisé pour désigner Jérusalem ou parfois le peuple d'Israël en entier. C'est un peu comme quand on dit la France a gagné la Coupe du Monde. C'est pas le pays, le territoire. C'est pas nous tous physiquement qui avons gagné, mais ça représente. Ou d'autres choses. Donc ça, c'est un mot qui est utilisé pour représenter alors Jérusalem et par extension le peuple d'Israël. Et donc Dieu est jaloux de son peuple. Il y tient. Il veut revenir vers elle et avoir une relation avec son peuple. Et le mot qui est utilisé ici pour jalousie ou pour colère, c'est l'idée qu'il est rouge à cause du sentiment qui l'agite. Il a un sentiment très fort, tellement fort qu'il en est tout rouge. Et il continue au verset 3, il dit « Voici ce que dit l'Éternel, je retourne à Sion et je veux habiter au milieu de Jérusalem ». Jérusalem sera appelée ville de la vérité et la montagne de l'Éternel, le maître de l'univers, montagne sainte. Dieu veut revenir habiter au milieu d'eux. Pour les Israélites à ce moment-là, c'était évidemment l'idée on reconstruit ce temple qui est la maison de Dieu, qui est ce lieu de la présence de l'Éternel au milieu de nous. Et c'était donc un encouragement pour eux de dire « Je veux revenir être au milieu de vous, dans la ville avec vous, au milieu de mon peuple. » Et pour les Israélites, quand le précédent temple avait été détruit, c'était un peu comme s'ils avaient perdu, Dieu était parti, quoi. Ils avaient plus ce lieu de rencontre, ce lieu qui leur permettait d'avoir un rapport direct avec Dieu. Alors c'est une drôle d'idée, c'est quelque chose de on se dit le Dieu de l'univers, le maître de l'univers qui est grand, et puis on construit une petite maison et ça y est, c'est bon. Mais c'était comme ça que Dieu avait établi sa relation avec le peuple d'Israël, et il leur dit, continuez, je veux revenir être au milieu de vous. Et sa présence, il dit, va changer le caractère même de la ville. Jérusalem sera appelée ville de la vérité. pas à cause d'une plaque ou d'un truc, mais parce qu'il y aura un changement profond dans le caractère et dans la manière de se comporter du peuple. La montagne de l'Éternel sera appelée montagne sainte, une montagne mise à part, une montagne spéciale pour Dieu. Et de réfléchir à ça, de se dire ce changement de caractère à cause de la présence de Dieu, ça nous fait penser, ça me fait penser à la relation que nous avons maintenant. Maintenant, avec Jésus, avec sa mort et sa résurrection, ce que nous voyons dans le Nouveau Testament, il nous dit « Je veux venir habiter en vous, dans vos cœurs. » Et le fait que je sois en vous, ça va changer votre caractère, ça va vous changer. Et ce changement de caractère, cette chose, ça doit amener un changement dans le témoignage que les chrétiens avons ici dans le texte. C'était l'idée que la réputation, ce pourquoi Jérusalem allait être connue, allait être complètement différent. Si vous réfléchissez à Jérusalem dans l'histoire, on n'y associe pas forcément de très bonnes idées. Nous, en tant que chrétiens, on a peut-être l'idée de Jésus, mais on se dit, mais c'est là que Israël a rejeté Jésus. On peut penser aux croisades, à toutes les guerres, si vous êtes intéressé à la Première Guerre mondiale, il y a eu plein de choses de guerre là, à l'instabilité politique que nous voyons actuellement depuis 50, 75 ans dans cette région, les soucis que ça pose au niveau de la planète entière, les enjeux géopolitiques et les problèmes. Et on n'a pas forcément l'idée d'une Jérusalem qui soit une ville de vérité, une montagne sainte. Alors, dans ce texte et dans Zacharie, c'est toujours annoncé avec un peu une double, on pourrait dire une double portée, mais la Bible nous parle d'un moment qu'il appelle le millénium. Actuellement, nous sommes dans la période de l'Église. Nous allons arriver à la fin de cette période de l'Église et la Bible nous parle de quelque chose qui s'appelle la grande tribulation, où ça va être une grande période d'instabilité au niveau de la terre. Et à la fin de cette période, Jésus va revenir sur terre et les Juifs, à ce moment-là, vont l'accueillir comme leur Messie et il va avoir un règne. Jésus va régner physiquement sur la terre à partir de Jérusalem pendant 1000 ans. Et beaucoup des choses que nous voyons dans Zacharie se réfèrent à cette période de l'histoire. Quand on lit ce texte, c'était adressé à des Juifs 400-500 ans avant Jésus-Christ. On peut honnêtement se dire on n'a pas vraiment vu l'accomplissement de ces choses dans l'histoire du peuple d'Israël encore. Et donc, ça pointe à quelque chose qui doit encore arriver. Et il continue au verset 4, « Voici ce que dit l'Éternel, le maître de l'univers, des vieillards et des femmes âgées s'assieront encore dans les rues de Jérusalem, chacun le bâton à la main, à cause de leur grand âge. Les places de la ville seront remplies de jeunes garçons et des filles jouant dehors. Les vieillards et les femmes âgées seront assis dans la ville. » On peut se dire, on ne comprend pas forcément. Vous connaissez peut-être des villes où il y a des personnes âgées qui s'assoient sur les places, qui jouent à la pétanque, j'en sais rien. Au Moyen-Orient, dans les pays, il y a peut-être, si vous avez déjà, moi j'ai pas vu beaucoup de pays du Moyen-Orient, j'ai été au Maroc, il y a sur les places, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de personnes âgées assises, mais il y avait ici quelque chose à prendre en compte pour les Israélites. Il y avait sans doute l'idée que l'exil, après l'exil, c'était un voyage très difficile de revenir à Jérusalem. C'était une situation très difficile une fois qu'ils arrivaient. Physiquement, c'était très éprouvant. Et on peut se supposer très facilement qu'il n'y avait pas beaucoup de personnes âgées qui étaient revenues. Et ça manquait peut-être dans cette culture, cette idée de dire, mais on est là, on est ceux qui sont forts et qui ont suffisamment de force sont là pour travailler, mais on n'a pas cette présence des personnes âgées comme on pouvait l'avoir, comme on en avait l'habitude. Et donc c'était l'annonce d'une bonne nouvelle, du fait que les gens puissent vivre en prospérité et dans la longueur et avoir une vie pleine. Et l'image des jeunes garçons et des filles qui jouent sur les places aussi, c'est cette idée de sécurité, d'un endroit qui est sûr, où il n'y a pas d'inquiétude, il n'y a pas d'ennemis qui vont venir, il n'y a pas de difficultés physiques, où il n'y a pas de danger. Pendant la reconstruction, on a vu que même quand ils travaillaient sur la muraille, il y a des moments où il y a des peuples autour qui viennent les attaquer. Alors ils sont obligés de travailler avec l'épée dans une main et les outils dans l'autre parce qu'ils savaient jamais si les gars allaient venir les attaquer. C'était pas un environnement qui était propice à ce que les gens soient tranquilles en famille en quelque sorte. Et donc Dieu leur annonce cette chose et c'est l'idée, je vais restaurer la paix, la prospérité, je vais vous mettre dans la sûreté. Quand on se place dans ce contexte c'est intéressant de regarder, mais ce que la Bible peut nous dire du millénium. Il y avait une note marrante de la part d'un commentateur qui disait visiblement pendant le millénium il n'y aura pas de voiture dans Jérusalem parce que les enfants joueront dans la rue, ils seront tranquilles, il n'y aura pas de problème. mais il y a aussi des commentateurs qui disent que la présence de personnes âgées fait référence à l'idée que les gens vont vivre comme avant le déluge. Vont vivre très très longtemps pendant le millénium et qu'il y aura ces personnes âgées présentes. Alors on sait tellement peu de choses sur cette période, mais on voit ces annonces comme une promesse et un encouragement que Dieu leur donne pour leur dire je vais, c'est difficile actuellement, mais je suis jaloux, j'ai un sentiment tellement fort pour vous et je veux que vous soyez restaurés et qu'il y ait la paix, la joie, que vous puissiez être en famille, que vous soyez tranquilles. Et il continue au verset 6 en disant « Voici ce que dit l'Éternel, le Maître de l'Univers ». Si cela paraît étonnant aux yeux du reste de ce peuple durant ces jours-là, sera-ce aussi étonnant à mes yeux ? Déclare l'Éternel, le Maître de l'Univers. Voici ce que dit l'Éternel, le Maître de l'Univers. Je sauve mon peuple du pays du levant et du pays du soleil couchant. Je les ramènerai et ils habiteront au milieu de Jérusalem. Ils seront mon peuple et je serai leur Dieu dans la vérité et la justice. Le verset 6... Je lisais dans d'autres versions de traduction de la Bible. Il y a une version qui s'appelle la Bible en français courant et il dit « Cet avenir semble irréalisable aux survivants du peuple d'Israël, mais je peux réaliser ce miracle, moi, le Seigneur de l'univers. » Et je trouvais que ça aidait à comprendre. Le peuple est découragé et incrédule. La ville de Jérusalem sera vraiment reconstruite pleinement peut-être 50 ou 60 ans après. Le temple sera fini à peu près 2-3 ans après le moment où Zacharie écrit. Mais Dieu dit je vais restaurer. Je vais ramener mon peuple. Après l'exil, ce que nous avons vu, les chiffres que l'on a par rapport à ce moment précis de l'histoire, c'est qu'en proportion, ils sont revenus pas très nombreux en fait. Mais Dieu leur promet une plus grande réunion. Et ce sera une réunion spirituelle aussi bien que physique, géographique. Ils seront son peuple et Dieu sera leur Dieu. Et là aussi, ça pointe vers un temps, je pense, dans le futur. On n'a jamais le sentiment qu'il y ait vraiment eu cet accomplissement dans l'histoire. Il y a cette restauration ici, mais le fait après qu'il rejette Jésus et qu'ensuite il soit dispersé et qu'il y a l'histoire moderne de ce qu'on sait du peuple d'Israël, on a l'impression qu'il y a encore une restauration à venir et Dieu leur dit, je vais les ramener de partout. Et on avait vu dans le début de Zacharie où il parlait du fait que la ville serait tellement grande qu'on pourrait pas le mesurer, que ce serait vraiment quelque chose d'incroyable. Et c'est intéressant comment il les reprend, il leur dit, est-ce que vous êtes incrédules? Ce que je vous dis, vous y croyez pas? Je vous annonce quelque chose et vous dites, non. C'est étonnant, c'est comme si on peut peut-être parfois, encore une fois, avec l'habitude, on vient à l'église, on entend les choses, mais peut-être dans la difficulté, ils se disaient, mais est-ce qu'on arrivera jamais un jour à avoir ne serait-ce qu'une ville digne de ce nom, quoi, enfin, sans même parler de la richesse et de la situation qu'ils avaient avant l'exil, de la situation politique. Je veux dire, à ce moment-là de l'histoire, ils ne représentent rien. Nous, on en parle parce qu'on a la Bible, parce qu'on a ces textes, mais le monde de l'époque, le monde géopolitique de l'époque, Jérusalem n'est d'aucune importance. Et c'est intéressant de se poser la question aussi, si Jésus n'était pas venu, si la foi chrétienne n'avait pas eu l'effet qu'elle a eu, est-ce qu'on parlerait de Jérusalem? Alors, ils sont incrédules. Est-ce que ça vous paraît étonnant? Et puis il leur dit là dans le verset, c'est un des bons. Il dit, le maître de l'éternel vous dit, est-ce que ça vous étonne, dit le maître de l'éternel? Il les rappelle, c'est le maître de l'univers qui leur dit des choses et eux ils sont là, ouais non, ça me semble impossible. Et pour nous, c'est une bonne question à nous poser, est-ce que nous sommes incrédules? Évidemment, dans la vie, moi, il y a des situations et des moments où je suis vraiment incrédule, où j'ai du mal à croire les promesses de Dieu, j'ai du mal à croire. Mais Dieu nous dit, je vous aime, je vais vous sanctifier, je veux vous transformer de gloire en gloire pour vous rendre comme mon fils Jésus. Et parfois, moi, je peux me décourager, me dire, mais je tombe encore dans le même péché, dans les mêmes mauvaises habitudes, j'ai pas le zèle qu'il faut, j'ai pas l'envie de témoigner de Jésus, j'hésite, on est là, on n'est pas très nombreux, il y a des fuites d'eau, des trucs, on est dans la difficulté, on se dit, mais, alors oui, Dieu est là, mais finalement, et je peux être tellement incrédule et Dieu nous dit non, c'est moi le maître de l'univers. Dans Matthieu 19, 26, Jésus les regarde et leur dit, aux hommes cela est impossible, mais à Dieu tout est possible. Et là aussi, c'est intéressant de réfléchir quand on se dit que c'est le maître de l'univers, quand on réfléchit peut-être au ciel, et quand on regarde ces choses, quand on regarde nos vies, quand on regarde ce qu'on connaît, si on est vraiment honnête, on peut se dire que toutes les bonnes choses, tous les espoirs, toutes les promesses, toutes les choses que l'on connaît de ce monde, ça n'est qu'une infime petite partie de la bonté, de la grandeur, de la chose incroyable que ça va être, de ce que Dieu veut pour nous. Nos petits cerveaux n'arrivent à rien. On est que sur l'avant-goût. On est là, il y a un banquet qui nous attend et on est à manger des cacahuètes et des olives un peu séchées et on se dit, waouh, c'est le paradis. Et Dieu se réjouit en se disant, vous savez pas ce qui vous attend encore. Et de réfléchir à ça, c'est tellement bon. C'était un écrivain, C.S. Lewis, un théologien anglais qui disait qu'on est un peu comme des enfants qui jouent dans une arrière-cour, dans la boue, et quelqu'un vient nous dire « Je veux t'amener à la plage, au soleil, dans les Caraïbes, Et toi, tu dis non, ça va, je suis bien là, il y a de la boue là, ça, c'est... elle a une bonne consistance, j'ai une pelle cassée, je suis pas mal. Et on comprend pas. Voici ce que dit l'Éternel au verset 9, le maître de l'univers, fortifiez vos mains, vous qui entendez aujourd'hui ces paroles de la bouche des prophètes qui ont surgi au moment où l'on a posé les fondations de la maison de l'Éternel, le maître de l'univers, où l'on a commencé à reconstruire le temple. En effet, avant, le travail de l'homme ne recevait pas son salaire et le travail des bêtes ne rapportait rien. Il n'y avait pas de paix pour ceux qui entraient et sortaient à cause de l'ennemi et je dressais tous les hommes les uns contre les autres. Mais maintenant, je ne suis pas pour le reste de ce peuple comme j'ai été par le passé, déclare l'Éternel, le maître de l'univers, car je sèmerai la paix, la vigne donnera son fruit, la terre ses produits et le ciel sa rosée. J'accorderai tous ces biens en héritage au reste de ce peuple. De même que vous avez été une malédiction parmi les nations, communauté de Juda et communauté d'Israël, de même je vous sauverai et vous serez une bénédiction. N'ayez pas peur et fortifiez vos mains. Il leur dit, continuez à faire ce que les prophètes vous ont dit de continuer à faire. On a vu Agé, on a vu le début de ce que Zacharie a dit. Il veut qu'il continue, il veut qu'il reste focalisé à reconstruire le temple. L'époque où ils sont, les choses sont encore difficiles, comme je l'ai déjà dit. Il n'y avait pas de salaire, ils étaient là à travailler sur le temple, la ville, mais ça ne leur apportait rien. L'agriculture ne marchait pas bien, il n'y avait pas de paix, il y avait des ennemis, de l'opposition. Et Dieu, il leur dit, mais je veux vous bénir, je veux changer. J'ai agi d'une certaine manière par rapport au peuple dans le passé, mais je veux maintenant traiter différemment avec vous. Il veut leur donner la paix, la richesse des récoltes. Il veut que son peuple soit une bénédiction plutôt qu'une malédiction. Il veut les encourager pour qu'ils soient fidèles et forts dans leur obéissance et leur service à Dieu. Et c'est une réflexion intéressante de voir comment Dieu répond d'une certaine manière à cette question où ils viennent un peu avec les chapitres 7 et 8. Encore une fois, c'est cette réponse à cette question de dire est-ce qu'on doit arrêter les jeunes là ? Ils sont toujours dans. Eux, ils sont là à pinailler sur des trucs. Alors, oui, sans doute qu'il y avait un camp qui défendait oui, il faut continuer parce que c'était quand même tragique. Et puis l'autre qui dit non, mais maintenant il y a le temple, donc c'est bon, on passe. Et Dieu leur dit non, mais moi, il leur répond pas, il dit faites ce que je vous demande. Il y a des prophètes qui ont dit des choses de ma part, faites ça. Le reste, c'est pas le problème. Et pour nous, pour moi, il y a bien des fois où je me perds dans des considérations théoriques, des suppositions, des hypothèses, où je me dis oui, alors est-ce que le millénium se passe vraiment avant ou après ? Comment est-ce que ça ? Et Dieu me dit, mais moi, ce n'est pas mon problème. Je veux que tu aimes ton prochain, que tu sois un témoin de moi, que tu fasses des disciples autour de toi si possible. Et moi, je suis là à dire, oui, alors... On aime bien parler de choses hypothétiques et théoriques. Moi, en tout cas, c'est mon cas. Je ne sais pas si c'est le cas pour vous. Mais parce que, bien des fois, ça m'évite de faire la chose concrète que j'ai à faire devant moi. Que ça vous arrive de passer du temps à Noël, de réfléchir à ce que vous voulez comme cadeau. Vous vous dites, tiens, si j'avais ça, je pourrais faire ça. Et en attendant, je ne fais pas les trucs que j'ai à faire tout de suite devant moi. J'ai eu un peu cette impression par moment cette semaine, je vous l'avoue. Je regardais des choses et puis je me suis dit, mais en fait, j'ai déjà tellement de choses devant moi que je peux faire et je n'ai pas besoin d'autres choses dans ma vie pour pouvoir les accomplir. Et le peuple d'Israël était un peu dans cette situation-là. Et il continue au verset 14, il dit « En effet, voici ce que dit l'Éternel, le maître de l'univers. Lorsque vos ancêtres m'ont irrité, j'ai décidé de vous faire du mal, dit l'Éternel, le maître de l'univers. Et je ne suis pas revenu sur ma décision. De même, je me ravise et je décide maintenant de faire du bien à Jérusalem et à la communauté de Juda. N'ayez pas peur. Voici ce que vous devez faire. Que chacun dise la vérité à son prochain. Rendez la justice aux portes de vos villes conformément à la vérité et en vue de la paix. Que personne ne projette dans son cœur le mal contre son prochain et n'aimez pas le faux serment. Car tout cela, je le déteste, déclare l'Éternel. Dieu a puni le peuple parce qu'il n'avait pas obéi à ses commandements. Et c'était clair. L'alliance avec Moïse dans l'Ancien Testament était très claire. Si ça vous intéresse, lisez Deutéronome 28 et il y a une idée très claire. Si vous faites mes commandements, ça va aller bien matériellement, vous allez être bien. Et si vous ne le faites pas, ça ne va pas aller. Et dans cette alliance, il y avait l'idée de Dieu bénit Israël si Israël garde sa part du marché, du deal. Et Dieu leur dit, voilà, vous avez vu, hein, si vous n'obéissez pas à ce qui s'est passé, obéissez, faites ce que je vous demande. C'est intéressant de noter, je pensais que c'est important à noter, que cette alliance que nous voyons dans le Deutéronome notamment, c'était une alliance passée entre Dieu et le peuple d'Israël. Et cette même alliance, cette même promesse de prospérité matérielle n'est pas quelque chose que Dieu a promis aux chrétiens. Dieu promet de nous garder, Dieu nous promet une richesse spirituelle, mais la Bible ne nous promet pas une prospérité matérielle si nous obéissons à Dieu. Et malheureusement, il y a des personnes qui peuvent tomber là-dedans et ça corrompt toute la relation avec Dieu pour les chrétiens. Si on se dit j'ai pas l'abondance matérielle que je souhaite avoir, alors il doit avoir un problème. Est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est Dieu? Est-ce que j'ai mal compris? Est-ce que j'ai pas la foi? Et le Nouveau Testament nous présente un petit peu autre chose avec le chrétien. Nous présente une que Dieu va nous garder à notre bien évidemment en tête, mais que lui regarde plus à un bien spirituel, à une prospérité spirituelle et à venir. Et il peut nous bénir matériellement, il en est capable si c'est son souhait. Il peut nous permettre d'être dans la difficulté, mais on n'a pas cette même promesse comme Israël avait dans l'Ancien Testament. Mais Dieu veut. Ici, il leur dit, je veux bénir Jérusalem et la communauté de Juda. Et il leur dit, alors ici, c'est dans la traduction en français courant, voici comment vous devez agir, que chacun dise la vérité à son prochain, que vos tribunaux rendent une justice équitable et rétablissent la paix. Ne projetez aucun mal les uns à l'égard des autres, refusez de prononcer de faux serments, car je déteste les actes de ce genre, je l'affirme, moi le Seigneur. Ça semble très simple et clair. Ça rappelle d'autres passages, ce qu'on a vu la semaine dernière dans Zacharie 7, les versets 8 à 10. La parole de l'Éternel fut adressée à Zacharie. Voici ce que disait l'Éternel, le maître de l'univers. Rendez la justice conformément à la vérité et agissez l'un envers l'autre avec bonté et compassion. N'opprimez pas la veuve et l'orphelin, l'étranger et le pauvre et ne méditez pas l'un contre l'autre le mal dans votre cœur. Avec les prophètes, il y a plusieurs passages comme ça. On voit aussi dans Michée 6:8, on t'a fait connaître, homme, ce qui est bien et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu mettes en pratique le droit, que tu aimes la bonté et que tu marches humblement avec ton Dieu. Dieu avait donné quelque chose de simple. Dans Ésaïe et dans Jérémie, il est question de ce que Dieu veut pour les jeunes. Et c'était des choses simples, pratiques, c'était pas des rituels spirituels bizarres ou compliqués. Et c'est assez incroyable de se mettre dans l'histoire et de voir où en était le peuple d'Israël au moment où Jésus arrive. Et c'est triste parce qu'on s'aperçoit que ils avaient tous ces textes, ils avaient tous ces prophètes qui leur disaient « Je veux simplement que vous aimiez les uns les autres, que vous soyez honnêtes, que vous ne mentiez pas, que vous fassiez du bien aux pauvres, à l'orphelin, aux étrangers. » Il y avait des choses tellement simples et ils étaient partis, ils avaient pris les commandements et ils en avaient rajouté plein. Et on voit la colère de Jésus contre eux à ce moment-là. Et c'est triste, alors c'est comme ça, entre guillemets, mais j'ai du mal à imaginer la tristesse de Jésus quand on se souvient, quand il regarde Jérusalem et il se lamente sur Jérusalem, il dit, mais je t'en ai envoyé tellement. On le voit ici, il leur dit, faites des choses simples. Là, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, ne prêtez pas, n'aimez pas le faux serment, ne projetez pas le mal dans votre cœur contre l'autre. Qu'est-ce qu'ils font contre Jésus? Les scribes, les pharisiens, ils complotent contre Jésus, ils cherchaient à lui tendre des pièges, et ils amènent des faux témoins pour le faire condamner à mort. Là, c'est incroyable. On se dit, c'est même responsable religieux qui était là devant Jésus, il y avait de fortes chances qu'il connaisse ces paroles de Zacharie par cœur. C'est incroyable. Ça doit être un avertissement pour nous pas quelque chose de solennel, mais moi, je dois me rappeler souvent, je vous disais tout à l'heure que j'aime bien réfléchir au théorique et ça m'évite de faire le pratique qui est devant moi. Et souvent, on délaisse les choses simples pour réfléchir à des choses compliquées, biscornues. On se dit, oui, alors est-ce que je vais soutenir telle ou telle mission? Je vais voir avec Portes Ouvertes pour un truc à Bornéo ou machin, un truc. Et puis, on a des pauvres autour de nous, on a des gens dans la rue. Moi, je me dis ça à moi, hein. J'essaye, mais faisons attention de ne pas connaître ces choses, de ne pas savoir ces choses et puis de ne pas les faire simplement. Ou alors, des fois, on se dit, quelle est la volonté de Dieu pour ma vie? On réfléchit, on dit, oui, alors est-ce que je dois... Et on réfléchit à des choses théoriques compliquées et Dieu veut nous dire... Je vous ai dit ce que je veux que vous fassiez. Aimez-vous les uns les autres, soyez généreux les uns envers les autres, aimez l'étranger, le pauvre, l'orphelin, etc., etc. Faites ce que je vous dis. Et puis pour les choses théoriques ou les choses un peu, on va dire, au niveau du plan de notre vie, il y a une importance moindre. Et pour résumer, tout ce passage, on pourrait dire, Dieu se soucie plus de notre caractère. Aux yeux de l'éternité, ce que nous aurons fait de nos vies, le plus important, c'est est-ce que nous aurons ressemblé le plus possible à Jésus? C'est ça la question, c'est notre caractère. Si ça veut dire que j'ai travaillé mon travail, que j'ai été chrétien là où j'étais, dans un petit contexte, entre guillemets, de ma vie, là où j'étais, avec ma famille, avec mon église, avec les gens que j'avais autour de moi, ou si je pars faire du travail avec une ONG, ou j'en sais rien, mais des choses où on se dit ça, je fonde un hôpital, ou j'en sais rien, un orphelinat, je fais des choses où on a l'impression qu'il reste une postérité ou quelque chose comme ça. Dieu nous dit simplement, moi ce qui m'intéresse le plus, c'est votre caractère. Après, ça peut être très bien de faire ça, ça peut être très bien de faire ça, mais est-ce que votre caractère est là où il doit être? Il y a un autre théologien anglais, G.K. Chesterton, qui disait que la foi chrétienne n'a pas été testée puis trouvée défaillante. On l'a trouvée trop difficile et donc on n'a même pas essayé de la mettre en pratique. Et l'idée, c'est qu'on souvent on vient à la foi chrétienne et quand on voit les choses simples, aimer son prochain, aimer sa famille, aimer ses voisins, rien que ça, on est déjà. C'est difficile de pas mentir, de pas faire vouloir le mal. On peut prendre les 10 commandements et on est déjà dans le dur. Donc essayons, je me le dis à moi, essaye de revenir aux choses simples. Verset 18, la parole de l'Éternel, le maître de l'univers, m'a été adressée. Voici ce que dit l'Éternel, le maître de l'univers. Les jeûnes du 4e, du 5e, du 7e et du 10e mois se changeront pour la communauté de Juda en jours d'allégresse et de joie, en fait de réjouissance. Mais aimez la vérité et la paix. Il y vient finalement à cette question des jeunes, et puis là aussi, d'une certaine manière, il évite de leur répondre et il dit non, moi je vais les transformer, ça ne va plus être des jours de deuil, ça va être des jours de réjouissance. Et c'est quelque chose du caractère de Dieu qui aime changer la tristesse, le deuil en joie, en allégresse. C'est dans son caractère. Un théologien, je me souviens lequel, disait que quand Dieu punit, quand Dieu fait le mal, c'est le travail qui lui est extraordinaire. C'est pas ce qu'il est dans sa nature, c'est pas ce qu'il veut, c'est pas la chose qui lui vient le plus naturellement. Ce qui vient le plus naturellement à Dieu, c'est de nous bénir, de transformer le deuil, les mauvaises choses en bonnes choses, de changer la mort en vie. Il leur dit, mais aimez la vérité et la paix, soyez comme Dieu à ce niveau-là. Verset 20, « Voici ce que dit l'Éternel, le Maître de l'univers, des peuples et des habitants de villes nombreuses viendront encore. Les habitants d'une ville iront dans une autre en disant, « Allons implorer l'Éternel et rechercher l'Éternel, le Maître de l'univers, j'irai moi aussi. Beaucoup de peuples, des nations puissantes, viendront rechercher l'Éternel, le Maître de l'univers, à Jérusalem et implorer l'Éternel. » Voici ce que dit l'Éternel, le Maître de l'univers. Ces jours-là, 10 hommes de toutes les langues des nations attraperont un juif par le pan de son habit et diront, nous irons avec vous car nous avons appris que Dieu est avec vous. Les peuples vont rechercher Dieu de tout leur cœur. Ils vont avoir de l'excitation à l'idée de pouvoir prier Dieu, de venir rencontrer Dieu. C'est une idée assez incroyable. Pour les Juifs, à ce moment-là, ça devait être encore plus incroyable de voir ce territoire complètement dévasté. Ils sont absolument rien sur l'échiquier mondial. Ils se défendent contre les nomades qui passaient dans le coin. Enfin, c'était vraiment, il n'y avait plus rien. Et que Dieu leur dise, toutes les nations du monde vont vouloir venir ici à cause de moi. Ça, c'est une promesse incroyable. À leur époque, personne ne voulait venir visiter Jérusalem en touriste. Hein. C'était pas déjà la plupart des Juifs eux-mêmes se disaient mais vous êtes fous de retourner là-bas quoi. Il y avait un petit nombre quoi. Alors ces versets 20 jusqu'à 23 font référence. On pense fortement au millénium, cette période où Jésus va régner sur la terre physiquement à Jérusalem et toute la terre va vouloir aller rencontrer Dieu à Jérusalem et va vouloir y aller. On voit l'excitation, allons implorer l'Éternel et rechercher l'Éternel, le Maître de l'univers. Et le gars qui entend ça, qui dit, ouais, moi je veux venir aussi. Et une excitation et une envie. Et on voit ces promesses qui, je pense, sont pour le peuple d'Israël, pour un futur à venir, parce que je ne pense pas que ce soit encore le cas vraiment, que les Juifs aient vraiment vu cet accomplissement. Mais en même temps, on peut aussi réfléchir et se dire que d'une certaine manière, ça nous fait penser à Jésus. Au fait qu'il y a des gens qui sont allés, il y a beaucoup de gens qui sont allés à Jérusalem en cherchant Jésus, entre guillemets. Que quand on voit ici que des hommes de toutes les langues, des nations vont venir attraper un juif par le pan de son habit, ça nous fait penser au début de l'Église. Toutes ces langues, toutes ces nations, ces personnes qui étaient venues de tous les pays pour venir adorer et qui ont rencontré Jésus. Aujourd'hui, si quelqu'un vous dit « Allons attraper un juif », c'est pas une bonne chose. Comme on l'a dit précédemment, malheureusement, l'idée associée à Israël, l'histoire d'Israël, est plutôt une mauvaise image. Le territoire avec un passé sanglant, comme son présent, malheureusement, les Juifs qui ont été un peuple persécuté dans de nombreux pays au cours de toute l'histoire. Mais Dieu leur dit, je vais changer tout ça. Les gens vont dire, ouais, il y a un juif là, lui il sait, Dieu est avec son peuple, lui est du peuple spécial, Si on va avec lui, on va pouvoir rencontrer Jésus, on va pouvoir rencontrer Dieu. Ici, le verbe qui est utilisé, qui est indiqué pour attraper, signifie une prise qu'on une fois qu'on a attrapé, on ne lâche pas. Il y a une question de vie ou de mort, quelque chose où il ne faut pas qu'on lâche. Et c'est beau aussi parce que c'est l'idée qu'Israël allait devenir un témoin et va être le témoignage de Dieu au peuple. Ce que Dieu voulait initialement, il voulait qu'il soit un témoin pour tous les peuples de la terre de qui Dieu était. Et eux, on se rappelle, avaient par fierté spirituelle rejeté les autres en disant « Ouais, vous êtes des moins que rien, nous on est le peuple choisi. » Et Dieu voulait qu'il soit une bénédiction pour toute la terre. Et ici, c'est tellement intéressant, ça nous fait penser à Jésus. Ça nous fait penser à comment les chrétiens devraient être perçus. Est-ce que les gens se disent « Ouais, un chrétien !» Dieu est avec lui. Est-ce que il sait quelque chose, il a quelque chose, il connaît Dieu. On peut prier pour que ce soit plus de cas dans ma vie, dans nos vies, dans l'Église de par le monde. Là aussi, malheureusement, l'histoire de l'Église parfois n'a pas donné cette réputation. Ce serait tellement beau que les gens nous voient et se disent ouais. Explique-moi la Bible, explique-moi qui est Dieu, qui est Jésus, je veux le connaître. Et ça peut arriver de nos jours. Il y a des gens qui viennent à l'église, il y a des gens qu'on rencontre, qui disent « j'ai envie de savoir qu'est-ce que c'est ». Et est-ce qu'on est prêt à leur expliquer ? Est-ce que je connais moi-même suffisamment Jésus pour pouvoir leur expliquer ? Est-ce que j'ai cette relation ? Est-ce que je suis réellement content et joyeux pour qu'ils aient envie aussi. Et puis cette dernière petite note, c'est de dire que nous avons besoin d'attraper un certain juif par le pan de son habit. Nous avons besoin d'attraper Jésus et de nous y tenir fermement. Nous avons besoin de l'accrocher et de nous dire on doit être avec lui parce que c'est Dieu. C'est plus fort encore que l'idée que Dieu est avec lui. Mais Jean 14, 6 nous dit que Jésus parlant, il dit « C'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. On ne vient au Père qu'en passant par moi. » Vous voulez connaître Dieu, vous voulez savoir qui est Dieu, alors vous devez venir et vous accrocher à Jésus. Si vous n'êtes pas croyant ce matin et que vous n'êtes pas au courant, vous avez besoin de Jésus dans votre vie. Dieu est réel et nous avons un problème de péché avec Dieu et nous avons besoin de Jésus pour être sauvés, pour être pour rétablir notre relation et pour être acceptés par Dieu. Nous avons besoin de dire « Allons, je vois un juif là, je vois Jésus, je vais m'y accrocher. » J'étais vraiment béni par ce passage et de réfléchir à la manière dont Dieu a tourné la chose aussi avec ce peuple qui venait pour lui demander est-ce qu'on fait les jeûnes ou pas. Et d'une certaine manière, il demandait des explications, des trucs. Et Dieu leur répond avec des promesses, en disant « Soyez fidèles avec ce que je vous ai déjà dit, inquiétez-vous de votre caractère, d'être fidèles à ce que je vous ai dit, et j'ai ces promesses-là qui arrivent. » Et pour nous, pour conclure, ça doit vraiment être un encouragement. On peut parfois se poser dans nos vies et se dire « Mais Dieu, je vois pas comment ça va se passer, je veux des explications. Est-ce que je dois faire ça, si, ça, est-ce que le jeûne, je le fais, je comprends pas ?» On a souvent envie de savoir oui alors qu'est-ce qui va se passer demain et après-demain et si j'essaie de faire ça comment tu vas le et Dieu nous laisse dans l'inconnu et dit je vous fais la promesse que je m'occupe de vous mais je veux que vous vous occupiez de votre caractère, je veux que vous soyez les bonnes personnes pour le plan que j'ai pour vous. Donc cherchons ensemble, cherchons à obéir à Dieu dans les choses simples qu'il nous a présentées, cherchons à nous occuper de notre caractère. Et Dieu a des promesses et a des choses incroyables. il a des vacances sur les plages aux Caraïbes alors que nous on est en train de jouer dans la boue prévue pour nous. Amen, prions. Dieu, merci pour ta parole. Merci pour ces paroles qui viennent avec ce leitmotiv, Seigneur, que c'est le maître de l'univers, c'est toi le maître de l'univers qui parle. Tu es incroyable. Aide-nous à le comprendre. Aide-nous à te croire. Pardonne notre incrédulité, Seigneur. Aide-nous à t'obéir, Seigneur, et nous te demandons de continuer à travailler dans nos vies, de continuer à nous sanctifier, de changer notre caractère, de nous changer pour que nous soyons de plus en plus comme Jésus, Seigneur. Merci pour ce temps ensemble, Seigneur. Merci pour la chance que nous avons d'être qui nous sommes, là où nous sommes, Seigneur, parce que c'est toi qui nous as fait, Seigneur, et qui nous a mis là où nous sommes. Seigneur, aide-nous à t'obéir simplement, Seigneur. Aide-nous à montrer notre amour pour toi en t'obéissant, Seigneur. Merci, Seigneur. En ton nom, nous prions. Amen.